Mayo Cassin Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en fonctionnant les deux statuts de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. La DGRA dans province orientale exige une taxe de $100 américains pour l'implantation des antennes paraboliques des réceptions des différentes chaînes de télévision locales et étrangères, ce qui ne rencontre pas l'assentiment de la population. Il y a aussi une confusion autour de la taxe sur les produits agricoles supprimée par le gouvernement central et exigée par certaines provinces. Ce qui relance les débats sur l'harmonisation des différentes taxes et redevances exigées par les provinces et autres entités territoriales décentralisées ainsi que le gouvernement central. Comment commentez-vous cette actualité? J.R. Lungembo coordonne et réalise cette émission mise en onde par Paul Badenama. Pierrot Elamé, je vous la présente sous la supervision de Nicole Ndaka. Et tout à l'heure, nous allons recevoir M. Godempoyi, professeur d'université et fiscaliste pour en parler. 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je venais de le dire, notre invité a déjà fait son entrée dans ce studio, M. Godempoyi. Vous êtes professeur d'université et fiscaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de parler aux auditeurs.
Je vous en prie.
Nous parlons de cette situation. En fait, le débat part de la province orientale. La DGRA de sensibilise la population et exige une taxe de $100 américains pour l'implantation des antennes paraboliques, des réceptions des différentes chaînes de télévision locales étrangères. Pas plus tard qu'il y a un mois, le gouvernement central a supprimé 38 taxes qui étaient perçues légalement dans le secteur fluvial lacustre. Et il arrive que les provinces ne sont pas d'accord par rapport à la suppression de la taxe sur les produits agricoles. Et en province orientale, la population estime que la taxe sur les antennes paraboliques, les gens payent déjà ça à l'achat au niveau central. Alors c'est là que je lance un peu le débat autour de la fixation de taxes et redevances entre le gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. D'une manière globale, par principe, comment procède-t-on pour fixer ces différentes taxes et redevances, que ce soit pour les entités territoriales décentralisées, les provinces ainsi que le gouvernement central?
Merci. Avant d'entrer dans les détails de ta question, sauf que je puisse te dire parce que c'est mon ami, je voulais dire ceci. La politique fiscale d'un État relève de sa politique économique, mm-hmm. qui elle-même fait partie de ce grand ensemble qu'on appelle les politiques publiques. Il y a un problème d'incohérence. Je l'ai toujours dit et je voudrais encore le répéter. Qu'il y a un, nos politiques publiques sont incohérentes. Donc, il faudra et il faut que le gouvernement central puisse avoir une unité de politique publique qui détermine les attributions des uns et des autres. Mais pour revenir à ce qui se passe dans la province orientale, je crois qu'il y a une ordonnance-loi qui détermine les taxes qui doivent être perçues par les provinces, mm-hmm. ainsi que les impôts donc, qui relèvent de la fiscalité locale. Donc, ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait une étude qui puisse être faite de manière à faire qu'il n'y ait pas une double imposition à l'interne. Et il faudra vraiment un travail de recadrage de nos politiques publiques pour qu'on puisse vraiment rationaliser et la fiscalité et la parafiscalité dans notre pays.
Mais quand vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu autant de problèmes qui ont posé le gouverneur des provinces et le gouvernement central, ce qui a conduit effectivement à cette ordonnance fixant nomenclature des droits, taxes et redevances qui doivent revenir au gouvernement central et gouvernement aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. On pensait que ça pouvait résoudre le problème. Mais alors, s'il arrive qu'aujourd'hui encore qu'il n'y ait pas un point de vue commun entre les différentes institutions. Est-ce que c'est un problème de sensibilisation au niveau de textes qui ont été promulgués, ou c'est un problème, comme vous l'avez dit, d'incoordination, si on peut dire ainsi, entre les différentes structures qui s'occupent vraiment des perceptions de ces taxes rédévances?
Les problèmes se posent à deux niveaux. C'est d'abord au niveau de la conception de notre politique fiscale. Je vous laisse dire que tant qu'on n'aura pas déterminé les cantons fiscaux de la République démocratique du Congo, il y aura toujours des remous de ce genre. Parce que l'impôt moderne, l'impôt qui soutient le développement, il doit être indolore.
Mm-hmm.
Et il faut.
Et ça veut dire.
Donc,
c'est-à-dire
que celui qui paye l'impôt, il ne doit pas sentir tout de suite qu'il est entré même dans ce qu'il avait comme réserve obligatoire mm-hmm. pour sa survie.
Mm-hmm.
Donc, c'est pourquoi je parle du canton fiscal. Donc, au niveau de la conception de la politique fiscale, il y a des incohérences qu'il faut revitaliser.
Uh-huh.
Mais il y a aussi le deuxième volet, c'est que la population congolaise est devenue un peu fiscophobe. Elle est allergique au paiement de l'impôt. Mais la population doit savoir, c'est qu'avec l'impôt, que ce pays sera reconstruit, et c'est avec l'impôt qu'on peut avoir de bons salaires dans notre pays. Donc, il y a un travail à faire en amont, et aussi un travail à faire en aval. Donc, en amont, nous suggérons qu'on puisse déterminer les cantons fiscaux. Vous savez, dans notre pays, par exemple, les taux des impôts sont déterminés de manière mandarinaire. Il n'y a aucune étude. Parce que les taux de l'impôt sur les temps scientifiques, lorsqu'il s'agit de l'impôt sur la dépense, il doit tenir compte de l'élasticité de la demande.
Mm-hmm.
Lorsqu'il s'agit d'un impôt sur les revenus, il doit tenir compte de l'élasticité de l'offre. Mais on se réfère pas à ces quatre. Il suffit seulement que chacun se réveille et imagine un nouvel impôt. Il en fixe les taux, un peu comme on le fait avec les numéros qu'on attribue sur les maillots des joueurs. Ça ne doit pas se faire comme cela. La politique fiscale a ses exigences. Ça, c'est le travail en amont.
Mmh.
Mais en aval, nous suggérons, nous souhaitons qu'il faut de temps en temps vulgariser la culture de l'impôt dans les choses de la population, parce que la population doit savoir que c'est avec l'impôt qu'on aura des bons salaires, c'est avec l'impôt qu'on aura des bonnes écoles. Donc, aux décideurs, nous demandons qu'on puisse repenser la politique fiscale, mais à la population, nous voulons aussi qu'elle puisse s'imprégner de la culture de l'impôt, c'est-à-dire le système fiscal, parce que c'est ce que nous payons qui permettra d'améliorer nos conditions.
Vous avez tout à l'heure évoqué des incohérences, et je voudrais que vous puissiez peut-être aller un peu en profondeur avec ces deux incohérences pour permettre aux auditeurs de comprendre. Ça, c'est la part des auditeurs, vous l'avez dit, il faut sensibiliser la population, mais la part du pouvoir public, les deux incohérences, comment vous expliquez ça un peu dans les termes qui puissent permettre aux auditeurs de comprendre?
En termes clairs, quand on fait le management public, et vous sentez que même quand les magistrats suprêmes parlent, vous sentez qu'il a déjà donné de la vision.
Mm-hmm.
Mais il faut maintenant qu'il y ait des gens qui puissent apporter l'intelligence à sa vision, un peu comme l'histoire de Pharaon et de Joseph dans la Bible. Donc, qu'est-ce que moi je suggère? En management public, un État doit avoir des politiques publiques qu'on appelle, ça peut se présenter sous forme d'un programme, mais il faut qu'il y ait une unité
uh-huh.
qui coordonne toutes les politiques publiques qui sont prises dans chacun des secteurs. Et à ce niveau-là déjà, on sait s'assurer qu'il y a de la cohérence. Si, tant qu'on ne le fait pas,
uh-huh.
il y aura toujours des problèmes de ce genre. Et particulièrement ce qui concerne la politique fiscale. Vous savez, la fiscalité dépend de plusieurs paramètres. Là, il dépend de l'environnement économique, et il dépend de l'environnement culturel. C'est ainsi que les gouvernements doivent arriver à déterminer les cantons fiscaux, c'est-à-dire les seuils qu'on ne peut pas dépasser mm-hmm. en termes de prélèvement des impôts et taxes. Et vous verrez, c'est ça même qui crée tout de suite ce que j'ai parlé de l'indolorité de l'impôt,
ouais.
c'est-à-dire quand quelqu'un paye tellement que l'impôt est juste, il reflète la situation économique du pays, les gens le payent facilement.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi un problème, c'est que dans notre pays, nous sommes dans l'attentisme, dans le paternalisme. On croit que notre bonheur viendra de l'extérieur, mais moi, je suis le seul qui croit que le développement authentique est d'abord endogène, c'est-à-dire doit partir de chez nous. C'est ainsi que je demande à la population d'apprendre à payer des impôts.
Bien sûr, on va revenir à vous parce qu'il y a aussi cette question sur la survie des provinces et dans la loi sur la situation des provinces. Les provinces ont besoin des ressources pour vivre, ce qui fait aussi qu'à un certain moment, on voit plusieurs taxes. En fait, on peut dire une multiplication des taxes en province pour permettre à ces provinces de pouvoir tenir le cap et survivre. On va revenir à vous parce que c'est une question, peut-être qu'on n'en parle plus aujourd'hui, entre soit la rétrocession, soit la retenue à la source. Ça fait beaucoup de débats et les provinces ont besoin de survivre. On va revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs, ce qu'ils en pensent, la situation dans leur milieu. Eddy est à Lubumbashi, Mathieu à Kananga, David ici à Kinshasa, dans la capitale. 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Eddy, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierron.
Vous avez suivi cet échange et les précisions données par notre invité. Alors, pour vous, à Lubumbashi, avez-vous aussi des cas comme ça où il y a des fois des disputes sur terrain entre les agents de l'État qui voudraient qu'on paye une taxe, par exemple, pour la province, soit que c'est pour le gouvernement central. Y a-t-il des cas comme ça que vous avez reçu à Lubumbashi?
Face à tout ce qui se passe, moi, si j'ai tenu à participer à l'émission d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait une incohérence, même au niveau du sujet. On dit la DGRA des provinces orientales. Alors moi, je me dis, si cette taxe provinciale, ce n'est pas la DGRA des provinces orientales qui doit la prélever, c'est plutôt la DGRTO, la Direction Générale des Ressources de la Province Orientale. Alors, si c'est une taxe qui est nationale, cela ne devrait donc pas concerner uniquement Kisangani ou la province orientale. Nous devrions être tous touchés par cette taxe. C'est ça le problème. Parce que, vous savez, la DGRA prélève les recettes à caractère national. Tandis que nos directions provinciales prélèvent les taxes à caractère provincial. Maintenant, cette taxe, moi je me pose la question, c'est la DGRA de la province orientale ou bien c'est la DG, la Direction Générale de la province orientale? Si c'est la DGRA de la province orientale, alors je me dis, ici à Lubumbashi, nous devions aussi payer cette taxe. Alors il faudra qu'on puisse un peu nous expliquer, peut-être par l'expert qui est au studio, si nous pouvons un peu comprendre. Maintenant, pour ce qui se passe, pour ce qui est des problèmes entre les taxes nationales et les taxes provinciales. Moi, j'ai un ami qui travaille dans une entreprise. D'après lui, il m'a dit que le gouvernement a quand même fait des efforts. Dans le domaine, par exemple, de l'impôt, avant, parce qu'eux, ils sont locataires, ils louent une maison, il dit avant, ils payaient l'impôt foncier à la DGI. Pour le moment, il paye l'impôt foncier à la DGK, la Direction Générale des Ressources du Katanga. Et c'est bien structuré. Mais le problème, c'est au niveau maintenant de la DGRA, où il y a une multitude de taxes. Il y a une équipe qui vient vous demander, par exemple, la taxe sur la promotion culturelle. Une autre vient vous dire qu'il faut payer la taxe sur la culture et art. Et lui me dit, avec une telle redondance, nous avons du mal à expliquer à nos chefs, qui sont des expatriés. Nous avons du mal à les convaincre. Comment on peut payer la taxe sur la promotion culturelle et puis la taxe sur la culture et art? Alors, moi je pense, dernièrement je suis vu, c'est sur une chaîne qui marche, Rada, on dit qu'on a réduit sensiblement le nombre de taxes à 356 pour la DGRAD. Et maintenant, avec tout ce qui se passe là, moi je ne comprends rien.
Voilà.
Du professeur.
C'est très bien, le professeur.
Les deux instances se mettent ensemble.
Merci
pour
beaucoup,
voir comment coordonner les choses.
Voilà, merci beaucoup, Eddy. Vous avez relevé qu'il y a d'abord une incohérence. Comment, si cette taxe sur l'implantation des antennes paraboliques était nationale, en principe, elle devait être aussi exigée à Kananga, à Matadi, partout ailleurs. Si la campagne, la DGRAD exige ça au niveau de Kisangani, province orientale, si c'est considéré que c'est local, ça devait être perçu en principe par la direction générale de la DGRPO, comme il y en a la DGRK Kinshasa, la DGRK Sakatanga, à Kananga, partout ailleurs. D'abord, il faut donner des précisions sur ce qui doit être perçu par la DGRAD. Faudrait-il que ce soit national ou bien existe seulement sur un seul endroit. Mais il se pose un problème pour vous, c'est que il faut qu'il y ait une uniformité, n'est-ce pas, dans ce qui doit être exigé aujourd'hui. Que la DGRAD passe pour exiger une taxe sur la promotion culturelle, la DGRAD passe exiger une taxe sur la culture et l'art. Voilà, autant de difficultés qui fait que c'est que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils doivent faire et comment tout doit être harmonisé. Vous avez besoin d'un avis, de l'avis du professeur qui est avec nous. Merci, on pourra vous expliquer. Merci beaucoup, Eddy de Lubumbashi. Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kasai Occidental. Bonjour. Mathieu, vous êtes avec nous. Bonjour. On a des petits soucis avec la ligne de Mathieu à Kananga. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. David, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio KP.
On vous écoute David, vous avez suivi les parties de solidarité posées par notre ami Eddy de Lubumbashi et pour vous, la préoccupation ici à Kinshasa.
Oui, merci beaucoup Pierrot. C'est bien de fixer des impôts et des taxes, mais ce que je me pose un peu la question, la DGRAD est une institution nationale, une régie financière qui a sa direction générale au niveau national ici à Kinshasa. Mais je me suis posé moi-même des questions, comment c'est la direction générale, la direction provinciale au niveau de la province orientale pour se mettre de telle idée pour faire payer aux gens cette taxe-là. Alors des antennes paraboliques, des fois on l'achète dans les 120 $. Pourquoi faire payer aux gens une taxe exorbitante comme ça? Et si j'allais poser à l'invité la question, est-ce que une réplique financière à caractère national. Et au niveau provincial, on peut avoir aussi une telle idée de fixer une telle taxe, ou soit de la région au niveau national ici. Et puis encore, Pierrot, vous allez voir que ce qui est mal dans notre pays, des fois on fait payer au sein des taxes, mais ces taxes-là n'arrivent même pas dans les trésors publics. On fait payer aux gens des taxes, après les collecteurs des copies sont en train de s'enrichir d'eux-mêmes. Cet argent part dans leur poche pour faire scolariser leurs enfants, faire ce qu'ils veulent faire. C'est bien de payer des taxes, mais je voulais juste avoir une certaine clarté. Si c'est cette taxe-là, ce sont les autorités nationales qui sont fixées, ou soit c'est la région par les autorités provinciales de cette région financière. Merci.
Merci beaucoup David. Nous revenons à vous, professeur Godempoyi. Vous avez suivi, en fait, moi je peux dire, mais il se dégage quelque chose, c'est d'abord au niveau de la population, pour que la population elle-même comprenne qu'est-ce qui est en principe qui doit être perçu en province et par le gouvernement central. Mais alors, cela revient aussi à l'explication du travail de la DGRAD. Parce que les auditeurs disent la DGRAD c'est national. Mais quand il y a une taxe qui doit être payée à la DGRAD, on considère que c'est une taxe nationale. Est-ce qu'il peut y avoir une campagne parallèle, disons, à Kisangani, on sensibilise pour payer sur les antennes paraboliques, et ça ne se fait pas à Kananga, ça ne se fait pas ailleurs. Et tout de suite, dans la tête des auditeurs, on dit, mais c'est pas possible, si c'est national, mais pourquoi cette campagne n'est pas lancée sur l'ensemble du pays? Voilà cette inquiétude qui ressort un peu dans la compréhension de ce qui doit être fait d'une manière entière.
Merci, je voulais d'abord saluer cette intelligence vive. Je ne vois pas les auditeurs, mais en suivant les termes de leur voix, il s'agit essentiellement des jeunes. Et je crois qu'il y a encore de l'avenir et de l'espoir pour notre pays au regard de la pertinence des questions qu'ils ont posées. Donc, il y a toute une nomenclature des droits et taxes qui doivent être perçus par la DGRAD. Et ce sont des droits à portée nationale. Si par hasard on se rend compte qu'il y a une province qui appuie sur les toxins pour mieux faire, on ne peut pas mal interpréter cela. Par contre, il fallait encourager une telle province. Donc cela dénote que dans certaines provinces il y a les laxismes et je voulais les souligner. Notre fisc, du moins sur le plan de fiscalité intérieure, a une faible capacité de mobilisation de recettes. Je vais te poser une question. Si tu es locataire, tu es propriétaire d'une maison, combien de fois tu as vu les agents du fisc passer chez toi pour le fisc réclamer ses droits de taxes? Donc, on ne peut pas en vouloir à la direction provinciale de la DGA de la province orientale, c'est là dénote le dynamisme de celui qui est là-bas.
Mmh.
Et je pense que au nom de la maximisation des recettes, ses collègues doivent lui emboîter les pas. Mais le deuxième aspect de la question, c'est qu'il faut toujours, parce que la différence entre l'impôt et la taxe, donc la différence entre la DGI et la DGA, c'est que la DGI s'occupe des impôts,
mm-hmm.
tandis que la DGA s'occupe de la taxe. Et là, il faut préciser que la DGA, c'est un service d'ordonnancement, tandis qu'il y a une multitude de services d'assiette.
Mm-hmm.
Donc lorsqu'on dit, par exemple, qu'il réclame pour la culture, il réclame
et
pour
après,
le tourisme,
pour
le
tourisme
réclame,
voilà.
C'est-à-dire que la DGA travaille en syntonie avec plusieurs ministères.
Mm-hmm.
qui sont les services d'assiette, et lui ne vient que pour faire le recouvrement. Et il va de soi que celui qui est dans le secteur de la culture, on ne va pas quand même le retrouver tout de suite dans le secteur de la téléphonie. Donc les contribuables ou les taxables, ils sont catégorisés selon leurs activités. Et d'ailleurs, je voulais dire que la DGRA, c'est la régie de l'avenir. Elle a plus du potentiel que la DGI, à mon sens. Elle devait faire plus de recettes que ce qu'elle est en train de faire maintenant. Donc, je peux me résumer et dire que si on a constaté que dans la province orientale, il y a la direction provinciale qui réclame ces taxes-là, je pense qu'il faut encourager les responsables de la province orientale pour ce dynamisme.
Mm-hmm.
Généralement, les agents du fisc sont dans un laxisme qui ne dit pas son nom. Ils n'ont pas encore vidé les potentiels existants, mais ils veulent créer de nouveaux impôts.
Mmh.
Et pour l'ami qui voulait comprendre pourquoi la DGRA cherche à tout prendre, c'est tout simplement parce qu'elle travaille avec plusieurs ministères.
Mmh.
Donc, pour qu'elle puisse vous réclamer une taxe, que vous soyez dans ce secteur-là d'activité. Mais du côté de l'État, je pense qu'il faut qu'on puisse, parce que la taxe, j'étais en train de le dire, que la différence entre l'impôt et la taxe, c'est que l'impôt n'a pas de contrepartie directe.
Oui.
Mais la taxe doit avoir une contrepartie directe. Mais il faut qu'on puisse voir quel est le service que l'État rend par rapport à la présence des antennes. C'est là où peut-être le débat peut se faire.
Mm-hmm.
Moi, je pense que si on réduisait les barèmes de cette taxe, il y aura moyen d'attirer plusieurs personnes vers les guichets de la DGRA et on fera de moins en moins d'évadés fiscaux.
Mm-hmm.
Lorsqu'on va baisser les tarifs, vous verrez que même ceux qui n'avaient pas l'intention de payer, ils seront enthousiasmés. Et au lieu, ce qu'on a perdu sur le plan nominal à ce qui concerne les tarifs, on va les récupérer par le truchement de l'élargissement de l'assiette.
Mm-hmm. Mais je crois que hier, dans la population en province orientale, même à Kisangani, il y a notre ami Robert qui pourra nous dire ce qui s'est passé, que les gens regrettent. Par exemple, quand tu vas acheter, si l'État pouvait organiser que cette taxe soit perçue directement à l'achat, cela veut dire discuter avec la société pour leur dire, voilà, vous vendez à autant, mais dans ça, nous incorporons déjà la taxe sur l'implantation. Quand quelqu'un achète, on a déjà incorporé. Parce que là où le débat s'est engagé, c'est le fait qu'il a déjà acheté du matériel, il l'a installé à la maison. Après, les agents viennent pour dire, voilà, monsieur, vous avez déjà installé votre antenne parabolique, payez-nous autant d'argent pour l'exploiter. Faudrait-il aussi avoir cette procédure qui permette à ce qu'une taxe soit incorporée déjà dans les services à l'achat? Comme ça, les gens ne vont pas sentir sur les épaules et engager une discussion avec les agents de l'État qui passent pour la perception.
Bon, la sociologie précède le droit. C'est ainsi qu'on dit que les faits précèdent le droit. Je pense que cela, il s'agit d'une nouvelle situation qui vient de se créer.
Mmh.
Et il n'est pas interdit à la DGRA d'échanger avec les contribuables pour voir de quelle manière faire appliquer, faire respecter cette loi sans mutiler les réalités.
Voilà. Merci beaucoup. Et Félix, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Robert Akisangani, Mathieu Asanaga. Félix, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les deux premiers compatriotes et leur point de vue, leurs inquiétudes aussi, et les précisions données par notre invité. On vous écoute par rapport à ces taxes qui sont exigées en province, soit par les institutions provinciales, soit par le gouvernement central.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'accorder la parole. Je voudrais d'abord poser une question à l'invité.
Oui.
Qui nous explique d'abord le rôle de cette taxe-là, le rôle des GIRAD et enfin poursuivre ce que je voudrais dire.
Là, oui, il est à peine d'expliquer tout à l'heure, là, oui.
Non, il a expliqué, bien sûr, nous, on a suivi, il a expliqué, mais les rôles des avocats publics, les paisibles de la population, le contribuable, qu'est-ce que le contribuable bénéficie avec ça dans le cadre du développement. Il a parlé, il a dit, il nous a dit que le développement de notre pays doit être en dos. Alors, notre pays se situe seulement à Kinshasa ou encore dans d'autres provinces qui sont en développement ou dans toutes les provinces, n'est-ce pas, que toutes ces taxes-là existent. Ici à Guéminal, la DGRAD existe, DGI existe, DGRP, tout ça. Mais, messieurs les journalistes, je me demande, est-ce que le développement de cette province de l'Équateur, particulièrement Guéminal, là où nous avons suivi même à la radio, à la télé, aux journaux, qu'il y a des routes asphaltées à Guéminal, il y a des hôpitaux construits à Guéminal, il y a ceci, cela, je me demande, est-ce que c'est théorique ou pratique? Et je ne me rends pas compte que c'est, toutes ces taxes-là pouvaient être payées à Guéminal, là où installer ici aujourd'hui, vous allez voir pour des taxes, il y a les gens de DGRA, de DGI, de GP et tout ça.
Mais si je vous suis bien, Félix, en principe, vous posez une question de fond. Notre invité venait de le dire tout à l'heure. Cela veut dire, vous voudriez voir les résultats palpables, n'est-ce pas? Après avoir payé les taxes, vous payez tout ce qu'on vous exige. Et en contrepartie, vous voyez, par exemple, les routes qui sont asphaltées, il y a des hôpitaux, on équipe les hôpitaux en médicaments, il y a des écoles qu'on vous construit. Comme ça, ça va résoudre le problème, n'est-ce pas? Votre difficulté, c'est de voir les actions palpables du pouvoir public par rapport aux taxes et autres redevances que vous payez. C'est ça votre souci, Félix?
Sinon, monsieur le journaliste, ça ne sert à rien de distraire la population, parce qu'avec tout ce que la population contribue comme l'argent, ils sont en train de souffrir et qu'elle retourne même à dire que le développement de notre pays va être autogène. Maintenant, si la population ne fait pas contribuer et qu'il n'y a rien comme la contrepartie, ça ne sert à rien.
Ça ne pourra pas encourager la population à continuer à payer l'impôt, les taxes. Merci beaucoup, Félix. On vous a suivi, vous souhaitez, notre invité l'a dit, le développement est endogène, c'est nous-mêmes. Mais alors, si nous ne voyons pas les actions concrètes, comment pourrions-nous continuer à pouvoir payer? Merci beaucoup, Félix, pour ce point de vue. Robert, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, Robert, nous sommes partis de notre échange est parti de Kisangani par rapport à l'argent que vous devez payer pour ceux qui ont les antennes paraboliques. Dites-nous un peu en une minute comment cela s'est passé sur terrain.
Bon, de toute façon, personnellement, je m'insurge un peu de cette taxe-là, puisque, vous savez, les appareils que nous achetons, les fabricants fixent déjà les prix de ces appareils à partir de l'usine et c'est en fonction du satellite sur lequel on doit prendre ces images.
Mm-hmm.
Donc c'est lui qui a prépositionné les satellites. C'est sûr qu'il a imposé aux fabricants une certaine taxe à chaque, donc à l'achat de chaque appareil, il indexe. On ne peut pas comprendre que maintenant, ici en aval, nous, les gens qui achètent, on doit aussi payer, maintenant, puisqu'on doit installer ces appareils, que soit, on doit payer encore la taxe en aval. Mais ça a été fixé en amont. Donc, je peux me poser aussi la question. Donc, au moment où je suis en train de parler avec vous, à partir du téléphone, finalement, on va aussi imposer des taxes pour toutes les personnes qui disposent des appareils téléphoniques. Ou bien, quand on a un laptop, un ordinateur portable, je peux aller aux choses, au cyber, je prends les images, je prends n'importe quoi, je suis en communication avec les autres par Skype. On doit aussi imposer les taxes pour la communication avec les téléphones ou avec les appareils, donc les laptops. Ce n'est pas compréhensible. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir instaurer ces taxes, puisque c'est
Voilà, on vous a suivi, Robert. Votre souci, c'est ce que je venais de demander tout à l'heure à notre invité. Vous souhaitez que cette taxe soit déjà incorporée, hein, quand on va acheter, que ce soit l'antenne, que ce soit l'abonnement, comme nous allons auprès des opérateurs, qu'on ait déjà la taxe doit être déjà incluse, ou plutôt qu'il est exigé encore à celui qui a déjà acheté le matériel avant de l'utiliser. C'est ça votre souci. Merci beaucoup. À Kananga Mathieu, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour l'invité.
On vous écoute, monsieur.
Bon, ce que je regrette, ça n'est que la façon dont on est en train même de réclamer cette taxe-là, cet argent-là. Ici à Kananga, j'ai vu les gens sonner partout, entrer dans des parcelles des gens qui ont des antennes paraboliques, réclamer de l'argent des gens de Désirade. Je les ai vus. Ce n'est pas encore une chose à encourager, puisque si quelqu'un achète cela, ce n'est pas qu'il a de l'argent dans sa maison, il possède beaucoup d'argent dans la maison. Il peut l'avoir pour un peu donc se distraire avec les enfants ou bien les gens de l'entourage. Mais ce n'est pas exiger $100. C'est exiger le montant comme tel. Ce n'est pas bien. Tout ce qu'il faudrait qu'on mette un peu quelque chose, que quelqu'un peut donc de se permettre de payer, ce n'est pas $100. Mmh. Après, c'est $100.
Voilà.
C'est un peu gérable d'abord. Il nous exige beaucoup de l'argent. Je ne vois pas ce qu'ils font avec cet argent. Ce n'est pas à partir de l'antenne parabolique qu'ils ont commencé à réclamer de l'argent. Ils le réclament souvent dans des objets, de matériel vraiment que je ne peux plus donc dans votre niveau.
Voilà. Mais je ne vois pas là où vous écoute, Mathieu. Si on vous écoute, Mathieu.
Ils continuent toujours de réclamer cet argent. Voilà,
merci. Merci beaucoup, Mathieu.
Je paye à combien d'argent.
Voilà, là c'est un deuxième problème qui s'ajoute dans notre échange. Vous dites, l'invité l'a dit tout à l'heure, si il faudrait réclamer $100 pour celui qui a une antenne parabolique, mais il faut aussi savoir le niveau de revenu de la population par rapport à la taxe qui est exigée. Mais vous avez rejoint Félix qui dit encourager la population, comme l'a dit l'invité, à payer la taxe, à payer les impôts, mais c'est aussi avoir des actions et des services que la population bénéficie, on pourra revenir à lui. Je rappelle encore que nous faisons notre échange sur l'harmonisation des différentes taxes exigées, que ce soit par les provinces, les entités territoriales décentralisées, ainsi que le gouvernement central. Vos propositions, questions sont les bienvenues dans cette émission qui reçoit pour vous les professeurs Godin Poi, professeur d'université et fiscaliste. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel si vous avez besoin d'intervenir en direct. Jérôme, vous êtes à Bounia, Fernand à Lubumbashi. Gardez la ligne, nous allons vous accorder la parole après que notre invité ait réagi et on se retrouve après quelques secondes.
Chaque jour, la fréquence de la paix le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Professeur Godin Poi, il se dégage d'abord un problème, c'est qu'il y a une glace entre les services de l'État qui s'occupent de l'impôt, des taxes avec la population. La plupart des cas, les gens débarquent, ils commencent à dire, voilà, nous sommes tel service, vous devez payer autant. C'est que toutes ces lois que nous avons étalées sous la table ne sont pas assez vulgarisées, que ce soit auprès de la population, que ce soit même auprès des agents qui vont souvent réclamer les taxes. Ça, c'est déjà une paire de manches, c'est un problème qui se pose dans cela. Mais il y a aussi ce souci de Félix et de Mathieu de voir quand même des actions qui permettent à la population d'emboîter les pas, de s'engager vraiment à pouvoir payer les taxes. Si quand même il y a des services qui sont rendus à la population, ça peut faciliter aussi votre appel à la population à pouvoir payer l'impôt et les taxes.
Merci beaucoup. Je crois, je souhaiterais que notre population n'est pas du tout opposée au paiement de l'impôt. Mais il veut qu'il y ait quand même une corrélation entre l'assiette et le prélèvement. Et dans l'une de mes publications, j'ai développé une notion que j'ai baptisée le marketing fiscal. Bien que le marketing relève du secteur privé, j'étais en train de faire montrer à l'État que c'est vrai que l'impôt n'a pas de contrepartie directe, mais il faut qu'il y ait des actions concrètes qui démontrent que c'est pourquoi on avait prélevé l'impôt a été justifié. Et je crois quand même qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là par le gouvernement, peut-être parce que la République est trop vaste, Mais pour l'ami de l'Équateur qui se plaignait qu'il n'y a rien, mais moi, j'étais quand même à l'aéroport de Mbandaka. S'il est sincère, il saura que ce n'est pas vraiment l'aéroport qu'il voyait il y a de cela 10 ans. Donc, il y a des efforts qui sont effectués, certes timides, mais pour qu'on puisse arriver à concrétiser toutes ces réalisations, il faut qu'on mobilise davantage. Et pour mobiliser, il faut que les gens payent l'impôt.
Mm-hmm.
Alors, ce que je veux maintenant suggérer au gouvernement, et particulièrement à la DGRAD, il faut qu'il y ait une corrélation entre la taxe et la prestation de services. Aujourd'hui, les antennes paraboliques ne coûtent plus cher comme il y a 20 ans.
Oui.
Donc, cela veut dire que c'est à la portée de toutes les bourses. Il ne faudra pas que la taxe en soi soit supérieure à la valeur de la taxe soit supérieure au prix de l'antenne parabolique, parce que nous savons à combien on va ces antennes.
Ouais.
À ce moment-là, lorsque le prix de la taxe est supérieur à l'antenne, donc c'est-à-dire que la taxe a une valeur de plus de 100%, et elle pèche contre la courbe de l'affaire. Donc il faudra que la DGRAD puisse actualiser ces tarifs en tenant compte aussi de l'environnement dans lequel ils évoluent. Parce que je te l'ai dit, qu'à l'intérieur, 100 dollars, c'est vraiment énorme. Mais quand cela ne tienne, nous demandons à la population que la seule façon de soutenir notre pays, c'est de s'acquitter de ses obligations fiscales. Et je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Les gens croient que, d'ailleurs, les termes même d'assimilation des recettes est aujourd'hui inapproprié. Il faut qu'on puisse parler de plus en plus de l'optimalisation. C'est-à-dire, nous connaissons déjà les potentiels. Et les potentiels, on peut déterminer avec les outils de l'économétrie. Lorsqu'on connaît le potentiel fiscal, on détermine les cantons fiscaux, nous connaissons les seuils, et nous aurons des impôts et des taxes justes. Donc, il faut qu'on puisse quitter l'arbitraire pour essayer de se rapprocher davantage de la rationalité. Donc, au gouvernement, je conseille une révisitation quand même de ces taux qui me semble quand même un peu élevé, mais à la population, j'ai dit qu'on n'a pas d'autre issue. Nous sommes un État fiscal. Si l'ami de l'Équateur ne voit pas ce que le gouvernement fait, moi je suis surpris. Je parle de l'Équateur. Mmh. Je suis surpris. Il y a des années où des fonctionnaires n'avaient pas de salaire dans ces pays. Mais aujourd'hui, on sait qu'autour du 20, on peut avoir un retard, mais on ne dépasse pas les 30. L'enseignant a quand même son salaire. Donc les efforts sont déployés, sont fournis. Il ne faut pas toujours qu'on puisse relever ce qui ne marche pas. Il y a quand même des choses qui marchent.
Mm-hmm.
C'est avec ces impôts, avec ces taxes, qu'on est en train de renflouer les comptes du trésor. Mais un autre problème que la population a soulevé, c'est aussi l'attitude des collecteurs de ces taxes. Donc, quand ils en collectent, qu'est-ce qu'ils en font? On les observe par leur train de vie. Et là, je pense qu'on doit faire comme en France. Les régies financières en France font partie de ce qu'on appelle les corps protégés. Pour y entrer, il faut être un capital humain. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait des études exigeantes, quelqu'un qui a bonne santé et qui a suffisamment d'éthique. Mais aujourd'hui, quelle est l'éthique des agents de notre fisc? Donc, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut prendre à bras le corps et chercher à les résoudre. À la population, nous conseillons toujours de payer l'impôt, et au gouvernement, nous conseillons d'avoir un impôt juste, surtout de mettre de l'ordre dans ces régimes financiers.
Voilà, je reviens sur votre dernier mot. Au gouvernement, nous conseillons. Y a-t-il un cadre de réflexion de vous, les experts en fiscalité, pour apporter ces solutions au gouvernement? Parce que vous avez déjà dit plus de 4 fois, au gouvernement, nous conseillons. Y a-t-il un cadre comme ça, des discussions, des spécialistes en fiscalité qui réfléchissent et qui proposent des pistes et des solutions au gouvernement pour savoir que voilà, parce qu'il y a des centres de recherche, n'est-ce pas, dans d'autres pays qui fournissent aux politiques les marches à suivre, n'est-ce pas? Est-ce que dans les domaines de fiscalité, vous avez aussi comme ça un centre de recherche qui permette qu'ils puissent réfléchir pour proposer des pistes et solutions au pouvoir public?
Le pouvoir public ne nous a jamais approché. Je vais vous donner un exemple et je voudrais apporter une précision. Actuellement au Congo, le Congo n'a que 5 fiscalistes, c'est-à-dire les gens qui ont fait des thèses, des doctorats en rapport avec la fiscalité. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais au moins ce sont des personnes attitrées.
Je peux vous citer les noms, c'est un problème. C'est Kimboli Moulambou, c'est Kolangoze, c'est Babiala Umba, c'est Baba Wakayembe, et enfin, c'est moi, votre petit serviteur. Donc, nous ne sommes qu'à cinq qui avons soutenu la thèse, des thèses vraiment en matière de fiscalité. Mais chaque fois qu'il y a des réformes fiscales dans ces pays, nous nous sommes toujours concertés, aucun de nous n'a été consulté. Donc, on comprend que les gens aiment du folklore, on les laisse évoluer.
Mais peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas...
Moi, je suis dans une structure fiscaliste. Non, nous avons même une structure, l'Association des fiscalistes congolais.
Oh, voilà.
Et on n'a pas besoin d'être dans une structure, même si nous l'avons. En France, le premier ministre français, avant de se prononcer sur les questions économiques de son pays, il est entouré dans les cas de ce qu'on appelle les conseils d'analyse économique, il est entouré par au moins une trentaine de professeurs, filière par filière. C'est seulement chez nous ici où quand quelqu'un devient ministre, il croit qu'il a acheté le pays, qu'il peut tout faire avec ses conseillers. Nous respectons leurs compétences.
Mm-hmm.
Mais nous pensons que dans chaque État, il y a des gens qui sont suffisamment éclairés dans certains domaines et qu'on doit les consulter. Moi, quand vous me voyez accepter de venir faire ce que j'ai fait, c'est par vocation, parce qu'à part mon statut de professeur, je suis pasteur. Je pense que je peux rendre service gratuitement à ma nation. Et ça, c'est écœurant, ça fait mal.
Voilà, merci.
Voilà.
On va revenir encore à vous. C'est vraiment passionnant, intéressant, notre échange autour de ces sujets. Jérôme, vous êtes à Bounia. Salomon à Kindou et Serge à Colusi dans les Katanga, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Jérôme, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Ah bonjour, monsieur l'animateur.
Mais si on peut arriver aujourd'hui à améliorer, vous avez suivi des pistes et des solutions proposées par les uns et les autres, et des préoccupations aussi, et des précisions avec notre invité. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver vraiment à harmoniser, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces taxes et d'autres redevances?
Ça va m'aider pour nous avoir d'abord associé à l'émission. Je passe beaucoup plus la question se pose aujourd'hui à terme de cette taxe sur les antennes paraboliques au niveau de la province orientale. Et si beaucoup de questions se posent autour du fonctionnement réel de la DGRAC et sa responsabilité en ce qui concerne le recouvrement de la destination de l'antenne de trésor public. En ce qui concerne la première question, liée d'abord au fonctionnement de la DGRAC est comme la DGI, comme DGR Pro à province orientale, est une régie financière. Alors, contrairement à la DGI, dans les circuits de recouvrement des taxes de trésor public, il y a quatre opérations élémentaires. Il y a d'abord l'opération de constatation, l'opération de liquidation, l'opération d'ordonnancement et à fin de recouvrement. Or, la loi congolaise en matière de recouvrement des recettes de l'État prévoit que, en ce qui concerne la constatation et la liquidation, cela revient de la responsabilité des services d'assiette. C'est-à-dire, il n'est qu'un acte générateur au profit des trésors publics que par une loi. Dans le cadre de ce que nous avons une nomenclature qui détermine le nombre d'actes générateurs de recettes par le service d'assiette. En ce qui concerne la question du jour, quand nous voyons bien dans notre nouveau journal officiel relatif à la nomenclature des actes générateurs au profit de trésors publics, nous prenons les services des PTT, téléphone et télécommunications. Vous voyez au point 3, on parle de taxe sur l'autorisation d'exploitation des stations tertiennes exclusivement réceptrices, entre parenthèses, antennes paraboliques de réception télévision. Alors, c'est-à-dire, ici, le service assiette, c'est le service des PTT. Ce service, qu'est-ce qu'il doit faire avec la DGRAC? Le service des PTT détient, tous les services d'assiette détiennent les documents qu'on appelle la note de taxation ou la note de qualité.
Mm-hmm.
Et le régime financier, la DGRAC ou la DGI, ils ont ce que nous appelons la note de perfection. Les services d'assiette, au regard de ce qu'il a comme arrêté interministériel, et la loi cadre qui détermine le nombre d'actes, qui, quand il constate
un acte générateur de recettes au profit de son service, à l'instar des services de PTT, avec des histoires des antennes paraboliques, il sera auprès des contribuables. Idiot contribuable, voilà, vous avez une antenne parabolique. La loi de la République en matière financière dit, lorsque vous exploitez une antenne parabolique, vous devez pour ça payer au compte des trésors publics un montant d'otage. Il les montre parce que les montants sont déterminés dans les arrêtés interministériels conjointement signés par le ministre concerné et avec le ministre des Finances. Quand tu lui montres, il explique comment il va le payer. À ce moment-là, il dépose au contribuable un document qu'on appelle la note de taxation. Contrairement à la DGI qui dépose au contribuable les documents qu'on appelle la déclaration. Alors, à ce moment, la note de taxation, c'est un document d'information demandant contribuable se rendre à la DGRAD après d'obtenir une note de perception et va t'amener avec la note à la banque pour reverser les comptes des trésors publics. Alors, le problème ici, c'est ne pas la DGRAD, c'est le service d'assiette. C'est d'abord le service de PTT qui a constaté dans sa nomenclature, lorsque on détient une antenne parabolique selon la loi de la République, pour ça, vous devez payer une autorisation au profit des trésors publics. Par conséquent, cette recette est canalisée par la DGRAD. Alors, à ce qui concerne beaucoup de questions posées par...
Oui, allez-y rapidement pour permettre aux autres de vous
Oui. Avec les auditeurs, mais par la suite, on paye, on ne voit pas la suite. Non, la DGRAD est comme une institution publique. Lorsque l'argent des trésors publics est canalisé à la banque, la DGRAD n'a pas la responsabilité de développer les milliers sur place. Non, l'argent est reversé sa part au niveau de... De trésors centrales et de là ça revient dans les budgets. Quand on dépasse à ce moment-là qu'on affecte l'argent des trésors publics.
Merci Jérôme. Merci.
C'est là selon les priorités de la République dans tel ou tel contexte.
Merci beaucoup Jérôme, on vous a suivi. Vous avez expliqué hein, avec les textes, je comprends bien que vous travaillez vraiment soit à la DGI, soit à la DGRAD, hein, si on vous a suivi. Vous avez beaucoup de précisions là-dessus. Merci beaucoup. Mais il faudrait aussi arriver qu'au niveau des différents services, expliquer à la population, si vous travaillez sur le terrain, expliquer à la population toutes ces procédures pour permettre à ce que les gens comprennent que c'est que nous devons faire, ce que nous devons payer, c'est la loi qui l'exige, plutôt que les gens voient souvent comme si c'était aléatoire, les agents de l'État débarquent dans votre parcelle, dans votre maison, il y en a qui sont très rapides, qui sont très pressés, il y en a qui vous disent de remettre nous l'argent, voilà. La manière dont les procédures, la manière dont tout s'opère, des fois, c'est ce qui crée cette crise de confiance entre les agents du fisc et la population. Merci beaucoup, Jérôme. Nous avons aussi un autre auditeur qui est en ligne à partir, je crois bien, de Kindou, c'est Salomon. Salomon, vous êtes avec nous, de Kindou, bonjour. Salomon, vous êtes
bonjour.
À Kindou. On vous écoute, oui, Salomon.
Bonjour. Je suis à Kindou, c'est Salomon Limpondo Saliboko, je suis à Kindou.
Oui.
Et je voudrais juste intervenir en ce qui concerne la manière dont on est en train de percevoir cette taxe-là, les antennes paraboliques au niveau de Kisangani, là-bas, la province orientale. Quant à moi, j'estime que ça, ce n'est pas une bonne manière de percevoir les choses. Pourquoi pas? Parce que nous avons une mauvaise culture fiscale et fiscale. Pourquoi on veut insérer les certaines taxes et qu'on est imposé, on veut imposer cela à la population, alors qu'au préalable, on n'a pas prévu une sensibilisation. C'est pour cela que ça peut paraître bien que l'on paye cette taxe-là, mais si au préalable, on n'a pas pu aller descendre à la base pour les sensibiliser, voilà, vous allez donner autant d'argent pour chaque antenne parabolique. Alors que ceux qui en bénéficieront, vraiment, ils seront conséquents de dire vraiment que voilà, en achetant la bourse, je serai un jour soumis à payer telle taxe à l'État. Mm-hmm. C'est normal. Mais l'État aussi a ses responsabilités. Pourquoi l'État ne veut pas faire assortir dans sa nomenclature le fait que quand on veut faire ceci, on s'aligne dans une telle ligne budgétaire selon qu'il s'agit d'une période à une autre. Nous sommes au Congo. Nous ne pouvons pas emprunter les législations des autres pays. L'Europe, c'est l'Europe.
Voilà, merci.
RDC, c'est la RDC.
Merci beaucoup, Salomon. Il y a deux auditeurs. On va terminer pour conclure cette émission. Je retiens dans votre argumentaire la sensibilisation. Il faudrait, avant, bien sûr, de pouvoir réclamer, il faut sensibiliser en amont pour permettre à ce que la personne qui achète l'antenne parabolique sache déjà que non, voilà, je suis soumis à une telle taxe. Merci beaucoup, Salomon. Serge, vous êtes à Colésy, dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour monsieur, je salue tous les auditeurs de la radio Kati.
Mmh.
Je crois que je pourrais apporter mon apport dans ce sens. J'estime qu'il y a un travail aussi de fond qui doit être fait au niveau des services d'assiette. Je crois que la DGRA ne fait que ordonnancer et elle ne fait qu'appliquer les arrêtés interministériels qui fixent les taux des taxes, des redevances et de tout ce qui est dû soit au pouvoir central. Moi je pense que le travail de fond doit être fait dans les services d'assiette, dans ce sens que souvent les services d'assiette, par exemple les postes, télécommunications, différents services, culture et art, ainsi de suite, les services ont cette manie-là de souvent surtaxer, si on peut le dire ainsi. Donc il y a souvent des taxes qui ne cadrent pas avec la réalité. Et je pense que ce n'est pas seulement dans le secteur des antennes paraboliques, et je crois que cette situation est assez aussi généralisée. Je peux donner un exemple.
Rapidement.
Dans le domaine de la communication, par exemple, les gens peuvent acheter un émetteur, ils veulent créer une chaîne de radio. Ils achètent un émetteur en Europe à 7 000, mais pour avoir, par exemple, l'autorisation d'exploiter, ils sont obligés des fois de payer des sommes qui sont exorbitantes. Moi, je crois que le ministre des Finances doit veiller vraiment à ce que les taxes qui sont fixées soient proportionnelles aussi à la situation du pays.
Merci beaucoup Serge, c'est vraiment important. On va écouter rapidement Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Là, on a passé des temps, il faudrait aussi que notre invité puisse réagir et conclure. Maurice, en une minute, vous pouvez résumer votre point de vue par rapport à ces sujets, Maurice et Kinshasa.
En fait, je dirais ceci, Piro, que vous savez, personne n'est contre les taxes. Elle a payé la taxe dans ce pays. Les problèmes résident, comme le prof qui est votre invité a dit, les problèmes résident au niveau même des contreparties. Notre problème dans ce pays, c'est les problèmes qui résident au niveau de l'opacité. L'opacité sur la redevabilité. Vous allez exiger des taxes, mais vous êtes incapable, par exemple, de dire à ceux qui payent les taxes que voilà ce que nous avons fait avec l'argent que nous avons perçu de vos taxes.
Mm-hmm.
La déserade aujourd'hui, on parle de la déserade. Il y a, je crois, 2 ans, nous avions parlé de cette déserade qui a perçu l'argent des industriels au Katanga. Mais cet argent est arrivé avec un déficit de 280 millions à la Banque centrale, et ce qui a conduit la suspension de ce pays à l'exil. Mais on ne doit pas continuer quand même à payer comme ça des taxes, les gens encourager des taxes, et à contrepartie, on ne voit absolument rien.
Merci beaucoup, Maurice. Vous avez dit il y a une opacité dans la redevabilité. On doit lutter beaucoup pour cela. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Le débat a été enrichissant. On revient à vos professeurs Godet Poui. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est pas la dernière fois qu'on parle vraiment de cette matière. C'est important. Il relève de tout ce que vous avez suivi auprès de nos auditeurs, qui est encore un travail qui doit être fait. On vous écoute en 2 minutes et demie, hein, pour réagir un peu par rapport aux propos des auditeurs et conclure aussi cet échange.
Je félicite d'abord les différents intervenants parce que le souci est là de bien payer l'impôt. Comme je l'avais dit, je voulais encore le répéter. Aujourd'hui, toute l'économie tourne autour de l'impôt. Apparemment, chez nous, on ne se rend pas encore compte de cette réalité. C'est pourquoi je demande à notre gouvernement, donc je le supplie presque, de rationaliser notre fiscalité, c'est-à-dire... Il faut d'abord qu'on détermine le potentiel, impôt par impôt, taxe par taxe. D'aider, je voulais dire au gouvernement de mon pays que les taux de l'impôt obéissent aux règles économiques. Ils sont différents au numéro qu'on appose sur les maillots des joueurs. De manière principielle, l'impôt sur la dépense dépend de l'élasticité de la demande, tandis que l'impôt sur le revenu dépend de l'élasticité de l'offre. On en tient compte pour avoir des taux qui sont proportionnels à l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et je veux toujours au gouvernement, je voudrais qu'on puisse faire des régies financières de corps protégés. Ce ne sont pas des administrations qui doivent employer des gens qui n'ont pas suffisamment de jugeote. et les gens de basse moralité. On doit veiller vraiment à cela. Pour ce qui concerne la population, je voulais dire que nous avons des grands défis à relever dans notre pays. Nous sommes un état fiscal. Apprenons à payer l'impôt. Et vous verrez qu'il y aura toujours des effets d'entraînement. Il y a de cela une dizaine d'années, c'était difficile pour un fonctionnaire d'avoir son salaire avant la fin du mois. Aujourd'hui, même si ce n'est pas le salaire qu'on attend, mais ça commence quand même d'être fait. Je crois que si nous payons nos impôts, nos conditions s'amélioreront. Mais il appartient au gouvernement d'en déterminer les cantons fiscales.
En 30 secondes, il y a aussi cette préoccupation par rapport au déficit des communications, des sensibilisations au gouvernement. À quoi ça revient? Qui a la responsabilité en précisant d'assurer
Là, c'est le gouvernement. Regardez nos chaînes de télévision. Nous réveillons par des chansons, du matin au soir. C'est comme si nous étions tous en répétition, en attente d'être édités par les orchestres. Donc, il faut qu'on trouve quand même des espaces dans les médias pour vulgariser la culture de l'impôt et, je voudrais bien dire, le civisme fiscal. Vous verrez que la population, si elle comprend les bien fondés de la question, elle va s'impliquer. Lorsque vous êtes en Chine, en Inde, on enseigne la mathématique à la télé. Pourquoi la nôtre ne doit projeter que les images des filles à moitié? Donc, il y a un problème. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement de vulgariser davantage.
Merci beaucoup, professeur Godempoli, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'université et fiscaliste. Merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux. On a raté deux auditeurs. Je crois, Franck, qui nous a appelé de Vienne, mais aussi Gustave, qui est en Belgique. Merci. Excusez-nous, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour vous accorder la parole. On va se retrouver prochainement. Mais merci à tous ceux qui se sont intéressés à ces débats autour des taxes et rédévances. Nous vous disons tous merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo qui l'a coordonnée et réalisée. Paul Badianyama a assuré la mise en onde. Et Pierrot Ilamiji vous a présenté cette émission que vous allez retrouver ce soir à 20h03 heure du Kinshasa en rediffusion. Mes paroles aux auditeurs sont aussi sur www.radiocapi.net. Il nous reste pour le moment à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. On se retrouve le lundi prochain à 11h03 heure de Kinshasa. Au revoir.